Évangile de Jean et chapitre 15. Jean 15, et nous lisons à partir du verset 18. Je vous rappelle que Jésus vient de parler de l'amour fraternel qui est sans commandement. Dans le verset 17, il finit cette partie de sa discussion en disant: ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Ce qui signifie de conscience d'avoir des péchés. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse de leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché ou de conscience de leur péché. Maintenant, ils les ont vus, donc mes œuvres, dit Jésus, et ils ont haï et moi et mon Père. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie: ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Sans doute, si nous avions été là ce soir-là, nous aurions été pris un peu au dépourvu par le changement subit de la tonalité et du sujet du discours de notre maître. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimez-vous les uns les autres, c'est ce que je vous commande, si le monde vous hait. Et maintenant, dans quelques versets, la haine, la haine, la haine, la haine, la haine. Je n'ai pas compté combien de fois, ça doit être 6 ou 7 fois dans ces quelques versets, que le Seigneur appuie sur le fait, en nous avertissant, que le monde est Jésus-Christ, son Père, et ceux qui appartiennent à lui. Nous voulons essayer de comprendre cela. Et nous voulons essayer de comprendre quel est notre devoir en face d'un monde auquel nous n'appartenons plus, mais dans lequel nous vivons et vers lequel nous sommes envoyés. La première chose que nous devons comprendre très bien, et il y a 2 points dans ce message, 2 grands points avec quelques sous-points. Mais le premier point, c'est simplement que le monde est Jésus-Christ et son Père. Le deuxième point, c'est que le monde est les chrétiens véritables qui appartiennent à Jésus-Christ. Premier point, le monde est Jésus-Christ et Dieu le Père. Jésus dit dans cette partie de son discours, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Qu'il. Qui? Le monde. Qui est le monde? Alors, le verset suivant nous définit. Le verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du milieu du monde. Le monde, c'est tout l'ensemble des non-croyants. Tout simplement, rassemblés en un système, une collectivité, un système établi contre le vrai Dieu et son Sauveur. Ce système est vaste, complexe, parfois inconscient, mais véritable. Si vous voulez savoir le caractère du monde, vous pouvez lire ou écouter au moins avec moi cette définition que Jean nous donne. Il dit ceci dans sa première épître. Il dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Et maintenant, il va nous dire ce qui est dans le monde, ce qui caractérise le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde... La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Tout ce monde non-croyant qui vit selon la convoitise de la chair, les plaisirs qu'on peut sentir dans le corps et on court après ça, c'est là la vie. La convoitise des yeux, le matérialisme, tout ce que je peux posséder, je vis pour ça, et cet orgueil de la vie, d'être populaire, d'être puissant, d'avoir du pouvoir, de courir après cela, voilà, tous ceux qui vivent selon ces mentalités-là, c'est le monde. Mais ça veut dire que vous aussi, vous avez fait partie du monde avant votre conversion. Le monde est donc tout l'ensemble de l'humanité irrégénérée. Deuxième sous-point, la nature du péché qui domine le cœur des incroyants, donc du monde, c'est quoi? La nature même du péché, si vous deviez dire le péché c'est quoi? Jésus nous dit dans ce passage ô combien important que la nature ou l'essence du péché, c'est la haine. C'est la haine pour Dieu et pour Jésus-Christ qui le révèle. Regardez avec moi dans le verset 18. 18. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le verset 23. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Ensuite, le verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vues et ils ont haï. Et moi et mon Père. Et le verset 25. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï sans cause. Il ne faut pas penser, chers amis, que les hommes et les femmes de ce monde qui ne sont pas croyants sont neutres par rapport à Dieu, ignorants. Si seulement on leur dit, ils vont aimer. Et il ne faut pas qu'on pense qu'il y a des gens qui sont sincèrement et de manière innocente, agnostiques ou athées. Parce que la Bible nous dit que derrière cet agnosticisme et cet athéisme qui semble tellement sincère, il y a au fond du cœur de chacun croyant de la haine pour le Dieu qu'il sait être là. Paul a dit dans les Romains que la colère de Dieu vient sur les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire qu'ils refoulent la vérité, car ce qui est Dieu et ses attributs, son éternité, son pouvoir, sont évidents pour eux dans ce qu'il a fait. Les hommes savent que Dieu est là et ils ont différentes tactiques pour essayer de tuer Dieu autant que possible pour un être humain. Parce que rappelez-vous que Jésus nous a bien dit que la haine égale meurtre. La haine dans le cœur, pour Dieu, signifie que nous sommes meurtriers et tout homme et femme incroyant, et vous avant votre conversion, et moi, nous étions, et ceux du monde sont toujours, des meurtriers par rapport à Dieu. Maintenant, Jésus dit dans le même texte, si vous étiez du monde, le monde aimerait ceux qui sont à lui. Le monde s'aime. Les hommes du monde s'aiment entre eux comme les membres d'un gang peuvent s'aimer. Mais ce même monde a de la haine pour Dieu. Maintenant, vous dites, attendez, pasteur, je connais certains non-croyants, même mes proches, peut-être, et ils diraient, mais moi je ne sens aucune haine pour Dieu, moi j'avoue que je suis indifférent, que ça ne me dit rien d'être religieux, mais je n'ai pas de la haine. Alors vous confondez, chers chrétiens, vous confondez la haine telle que Jésus le dénote et l'émotion psychologique que produit parfois, mais pas toujours, la haine. On peut haïr sans sentir l'émotion de la haine. D'accord? Je peux avoir de la haine, de la détestation pour quelqu'un, mais quand ce quelqu'un est loin et pas dans mes pensées, j'ai aucun sentiment, aucune émotion de la haine. Et le non-croyant, tant que Dieu le laisse tranquille, il est dans cette attitude, si tu es là, occupe-toi du ciel et moi je m'occupe de la terre. Et ça va bien. Mais lorsque Dieu ne s'occupe pas seulement du ciel, lorsque Dieu vient vers les hommes non-croyants, lorsqu'il est venu en Jésus-Christ, lorsqu'il impose sa réalité sur nous et nous impose ce qu'il offre et ce qu'il commande, ce qu'il demande et ce qu'il donne, et lorsqu'on ne peut pas l'ignorer, alors là, les hommes, la haine sort et on crucifie le Dieu incarné. C'est donc seulement quand Dieu se force dans la vie du non-croyant et il est confronté, il dit « Ah, ça non !» Et c'est le sens du verset 22 et 23, 24. Lisez-les avec moi. Jésus dit ce que je viens de vous dire. Si je n'étais pas venu, vous voyez, si Dieu ne vient pas se manifester, si je n'étais pas venu et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas littéralement de péché, mais pour eux, ils n'auraient vu aucun « j'ai pas de péché envers Dieu, je hais pas Dieu ». Mais c'est parce qu'il leur a parlé que Jésus a suscité cette haine envers lui. Et le verset 24. « Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Ils n'auraient pas de péché conscient. Ils se seraient dit « moi, j'ai pas de l'aversion envers Dieu ». Je n'ai pas de l'antagonisme envers Dieu. Mais quand Christ s'est révélé, il était devenu évident que oh, nous n'aimons pas ça. Nous n'aimons pas celui-là. Alors la haine qui est toujours présente devient psychologiquement ressenti et exprimé. Deux applications, chers amis, pour vous, avec vos amis non chrétiens. Ne soyez pas trompés quand le non-croyant vous dit qu'il n'a pas de haine pour Dieu ou qu'il aime Jésus. Parce qu'il y a des non-croyants qui disent aimer Jésus, mais c'est un Jésus fabriqué dans leur tête. Paul parle d'un autre Jésus. Si vous avez un autre Jésus, ouais. D'accord? Et combien de fois j'ai dû amener quelqu'un à voir qui est le vrai Jésus-Christ, et quand il l'a vu, il dit, ah, ça j'accepte pas. Ça j'accepte pas. Vous savez que les psychologues disent que les enfants, certains sont capables de rébellion active et d'autres de rébellion passive. Et sur le plan psychologique, ces enfants sont très différents. Il y a un enfant, non maman, je ne le fais pas. C'est la rébellion active, c'est très clair. Mais il y a un autre enfant qui ne fait pas ça. Mais il se retire, il dit rien, il boude. Et c'est aussi une forme de la même chose souvent. C'est une rébellion dite passive. Et les hommes sont souvent coupables de cette haine et cette rébellion qui se manifeste d'une manière très subtile et qui se cache pour ne pas se montrer. Deuxième application, voilà pourquoi, chers amis, aucune personne non-croyante ne peut, quand vous lui faites part de l'Évangile, ne peut se repentir et venir véritablement avec une foi cordiale et aimante à Christ. Sauf si Dieu change son cœur. Si Dieu lui donne la nouvelle naissance souverainement, il aura ce cœur pour tourner vers Dieu dans un véritable élan d'affection et de foi. Mais si Dieu ne régénère pas son cœur par une grâce souveraine de son propre cœur, dans le penchant et la haine pour Dieu, il n'est pas possible. Il n'est pas possible. C'est pour cela que nous lisons dans le livre des Actes des choses comme ceci. Excusez-moi de prendre juste un moment et nous allons revenir au passage, mais il est vraiment important que vous compreniez la nature du péché est une haine irrévocable envers Dieu et Jésus-Christ. Donc, la Bible dit, à un moment donné, Paul arrive dans la ville de Philippe, et il trouve des gens en train de prier en dehors de la ville, et au verset 12, nous lisons du chapitre 16, nous lisons ceci. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de ce district, etc. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande du pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Le Seigneur ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache. Mais personne ne peut s'attacher au Seigneur sans que le Père fasse cela. J'aurai d'autres passages à vous montrer comme cela, mais je vais les sauter parce que je vois que je rallonge déjà. Ok, la nature du péché, c'est une haine pour Dieu, une haine qui est un antagonisme complet qui ne se ressent pas, sauf si Dieu vient se révéler par un chrétien, un témoignage, un moyen ou un autre. Pourquoi est-ce que le monde est Jésus-Christ et Dieu le Père? C'est la prochaine question que Jésus à laquelle Jésus va répondre. Et il nous dit deux choses. Dans le verset 22, il nous dit d'abord, c'est à cause de ses paroles. Je vous ai lu ce verset, on le relit. Le verset 22, Jésus dit, si je n'étais pas venu et si je ne leur avais point parlé. C'est ce que Jésus-Christ dit qui embête les hommes. C'est son enseignement au sujet de l'âme, au sujet de Dieu, au sujet du but de la vie, au sujet de l'éthique, comment il faut vivre, ce qu'il faut croire, au sujet de l'enfer, au sujet du ciel, au sujet de la conversion. C'est ça qui embête les hommes. Au sujet du fait qu'il est le seul chemin vers Dieu et qu'on ne peut pas fabriquer nous des chemins et décider. C'est tout cela qui embête les hommes et qui leur montre leur péché. Qui leur montre qu'on n'est pas d'accord avec toi. Et donc, pas d'accord avec Dieu. Deuxièmement, pourquoi le monde est Jésus-Christ? À cause de ses actes. Dans le verset 24, « Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de conscience de leur péché. Maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. » Quand Jésus est venu, Dieu a pris un visage et un nom. Les hommes, ça ne les embête pas de penser, certains, qu'il y ait un Dieu inconnu. On ne peut pas savoir exactement qui il est. Ça nous arrange. Hein? Comme ça, on n'a pas besoin de faire face au vrai Dieu. On peut juste dire qu'il y a un Dieu inconnu, distant. On le tient à bout de bras, hein, de cette manière. On l'enferme dans une anonymat. Alors qu'il est le Dieu qui se fait connaître, il n'est pas anonyme. C'est déjà un mensonge que les gens se font en rendant Dieu anonyme. Il est toujours, depuis toujours, le Dieu qui se révèle, qui se fait connaître tel qu'il est. Et quand Jésus est venu, il a fait ses œuvres, il révèle que Dieu est simplement glorieux et que nous sommes à côté de tout ce que Jésus a fait, tout petit. Tout de suite, nous sommes tout petits, mais vraiment tout petits et très sales. Rappelez-vous, quand Jésus a donné la pêche miraculeuse à Pierre, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit tout de suite, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » C'est un miracle de bonté. Jésus n'a rien dit au sujet de son péché. Il a fait des actes que personne n'a fait. Il a révélé la grandeur de Dieu. Et dès que Dieu révèle qui il est, on se sent tout petit et on se sent pécheur parce qu'on l'est. Et c'est pour cela que les hommes détestent Jésus-Christ. Parce que devant lui, ils ne peuvent plus avoir ce Dieu qui est lointain. C'est pas ma faute si je ne le connais pas parce que il ne s'est pas révélé clairement. Il déteste Jésus-Christ parce qu'il est le Dieu qui se révèle clairement et qui brise tout le mensonge des hommes. Et pour terminer cette partie sur la haine que le monde a pour Dieu, le verset le plus triste du Nouveau Testament, peut-être, ou un des versets les plus tristes, c'est le verset 25. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie, ou afin que cette parole soit accomplie, ils m'ont haï sans cause. Le monde déteste Dieu sans aucune raison. C'est ça, si nous voulons aller au fond de l'essence du péché. Le péché est une haine sans aucune cause, aucune raison. Maintenant, nous pouvons parfois haïr avec une raison. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, dit l'Ecclésiaste. Il y a des choses à haïr s'il y a une raison suffisante. Nous haïssons le terrorisme, n'est-ce pas? Mais dans le Dieu qui n'est que bonté et amour, il n'y a aucune cause de ne pas l'aimer. Il est l'aimable suprême. Et la folie du péché, c'est que le péché est irrationnel. Il n'y a pas de raison pour haïr Dieu. Le péché est toujours irrationnel. Et c'est pour cela aussi, chers amis, que vous ne pouvez jamais gagner quelqu'un à Christ par des arguments. Parfois, il faut donner certains arguments parce qu'il y a des mensonges, des gens croient, mais même quand vous répondez à cela, ça ne change rien parce qu'ils détestent Dieu, non pas pour une raison, certaines raisons que vous avez désabusées, ils détestent Dieu sans raison. C'est une perversion du cœur, c'est le cœur de l'homme, c'est ce que je suis moi-même qui est le problème. Ok. Nous avons pris du temps parce que sans comprendre cela, nous ne pouvons jamais comprendre la grandeur de notre salut. De quoi vous avez été délivré? Quoi, vous croyez que vous aviez été gentil, juste ignorant? Vous détestiez Dieu de tout votre cœur. Et Dieu vous a aimé et vous a délivré de ça. Et nous avons pris le temps parce que nous ne pouvons pas comprendre la gloire de la souveraineté de Dieu qui vient nous arracher sans comprendre cela. Et nous ne pouvons pas comprendre comment témoigner, comment prier, prier, prier. On cherche plus par des arguments à gagner les gens si on ne comprend pas ces choses. Ok, deuxième point. Le monde hait les vrais chrétiens en raison de leur appartenance à Jésus, leur amour pour Jésus et leur ressemblance à Jésus. Premier sous-point. Le monde déteste les chrétiens authentiques et le monde est intolérant de ce qu'ils croient et de la manière dont ils vivent. Verset 19. Jésus dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, où Martin dit, je vous ai élu du monde, c'est une construction grammaticale un peu bizarre. Jésus dit, parce que je vous ai choisi hors du monde. Ec! C'est presque comme s'il disait, c'est pas du bon français, mais parce que je vous ai sorti du monde par mon choix de vous, parce que c'est mon choix de vous qui vous a sorti du monde, le monde vous déteste. Est-ce que c'est vrai? Quand le christianisme s'est répandu au début, on revient au premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, et le christianisme, d'une manière vraiment miraculeuse, et tout le monde le dit dans l'histoire, envahit l'Empire romain. Comment est-ce que le christianisme est reçu dans un empire qui accueille toutes sortes de religions? Les chrétiens sont brûlés vifs, les chrétiens sont mis dans les arènes pour que les lions les mangent en France. À Rome, en différents endroits de l'Europe, les chrétiens sont torturés de la manière la plus atroce. C'est comme ça que le christianisme, lui, de manière unique, est accueilli dans l'Empire romain. Comment est-ce que le christianisme a été accueilli en France lorsque le vrai christianisme a apparu en force pour, je dirais pas pour la première fois, mais pour la première fois depuis des siècles? C'était dans le XVIe siècle, au moment de la Réforme. C'est le massacre de Saint-Barthélemy. Et ce massacre a été répété, répété. Des milliers, des milliers, des milliers de chrétiens véritables tués pour aucune raison, sauf qu'ils croyaient dans Jésus-Christ comme seule source de salut, par sa seule mort sur la croix par la seule grâce, par la seule foi en lui. Et des massacres partout en France, jusqu'au point où on nous dit que 200 milliers de personnes ont fui la France, ont dû fuir la France parce que la haine du peuple français était tellement grand. Quelle religion est la religion persécutée dans le monde aujourd'hui? Sur tous les continents, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe. C'est le christianisme. Une lettre a été écrite vers la fin du deuxième siècle à un homme qui s'appelait Diognète. Alors Diognète reçoit cette lettre d'un chrétien parce qu'il lui pose des questions sur la foi chrétienne. Et voilà ce que cette lettre dit. C'est une lettre renommée, les historiens connaissent bien. Écoutez ce témoignage d'un chrétien vers un non-chrétien qui pose des questions. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux par les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens. Ils sont vraiment des bons voisins. Ils supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde. L'Église de Rome n'a pas encore fait ses ravages. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Parce que vous savez que l'infanticide était très répandu dans l'Empire romain, aussi bien que l'avortement. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils y trouvent leur justification. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent comme s'ils naissent à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers et les Grecs les persécutent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. C'est incroyable. Notre expérience de la haine du monde suit donc le modèle de la haine que le monde a pour Dieu et pour Jésus. Verset 20, je vous lis. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'il y a des gens du monde qui vont vous persécuter et vous détester. Parce que vous êtes chrétien, et il y en a qui vont se tourner de leur haine et qui vont accepter le message de Christ et vous rejoindre. Ça va se passer comme ça, parce que ça s'est passé comme ça avec Jésus. La plupart ont persécuté notre Seigneur, certains se sont détournés de cette haine par la grâce de Dieu, pour se joindre à lui. Et ce sera la même chose pour vous. Il y a 2 semaines au Burkina Faso, où je vais souvent, un pasteur et 3 fidèles ont été tués au milieu d'un culte chrétien. Et ça se passe pratiquement toutes les semaines quelque part dans le monde. Ce n'est pas toujours aussi radical, cette persécution et cette haine. Nous avions récemment quelqu'un dans notre maison, parce que nous faisons avec une chambre de Airbnb. Nous louons une chambre. Et cette personne a dit, j'aime bien votre Airbnb, hein, l'endroit en bas, le rez-de-chaussée est plus ou moins donné à ces personnes. C'est vraiment bien fait, sauf que vous avez vraiment besoin de dépersonnaliser l'espace. Il y a vraiment trop de David et Nikki. Pourquoi? Parce que dans une des pièces qui est un salon, une pièce en commun, il y a 2 étagères, 3, il y a 2 étagères de livres chrétiens. Et cette personne a dû nous dire, on ne l'a pas demandé, cette personne a dit, vraiment, je dois vous dire quelque chose. Cette personne avait de la haine pour le fait qu'il y avait des livres chrétiens dans ce salon. Il faut dépersonnaliser. Parce qu'elle n'a pas osé dire, je déteste Dieu et je déteste votre christianisme. Si vous enlevez votre christianisme de ma vue, je serai beaucoup plus content. Pourquoi est-ce que le monde vous hait? Parce que vous n'êtes pas du monde. Jésus dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Vous n'êtes plus du monde. C'est comme si il y a une rivière et tous les poissons nagent dans le sens du courant de la rivière. OK? Et nous, on nage à contresens. On nage à contresens du monde parce que nous croyons la manière dont nous acceptons la vérité et par la manière dont nous vivons. Et le monde n'a pas, est intolérant de quelqu'un qui nage à contresens. Tout le monde doit nager avec le sens du courant. Tu peux être hindou, tu peux être bouddhiste, tu peux être catholique, tu peux être protestant libéral, tu peux être athée, agnostique, mais il faut que tu sois mondain et pas un véritable croyant en Jésus-Christ et en Dieu le Père. Ça, non. Parce que vous pouvez adopter beaucoup de croyances, beaucoup de... tant que c'est une forme de mondanité. Pour tout le discours de tolérance que nous entendons constamment aujourd'hui, le monde est absolument intolérant d'une chose. Et ça, c'est la foi chrétienne. Annoncée comme la vérité. Pas comme une vérité, mais comme la vérité, parce que c'est ainsi qu'elle se définit et que Dieu nous l'a donnée. Ça pousse même des parents à ne pas enseigner la foi à leurs enfants. Ah, c'est à eux de choisir. C'est pas à eux de choisir. C'est pas à votre enfant de choisir la vérité. C'est à votre enfant d'écouter la vérité et de croire. Excusez-moi, ça c'est une parenthèse. Mais le monde vous est aussi à cause de la manière dont vous êtes sorti du monde. Vous avez remarqué? Dans le texte, Jésus nous dit, parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Si votre religion était le résultat de votre libre arbitre, de votre choix, d'un truc humaniste que l'homme fait, que l'homme imagine, que l'homme forme, que l'homme décide, que c'est l'homme qui contrôle, pas Dieu, que l'homme contrôle son destin. Les gens sont cool avec ça. Mais lorsqu'on parle du fait que c'est Dieu qui est Dieu, c'est Dieu qui décide. Un Dieu qui agit comme Dieu. Qu'est-ce que c'est agir comme Dieu? Dieu fait comme il veut. C'est lui qui décide. C'est lui qui sauve. Parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Je vous ai choisi, pas vous. Le monde vous hait. Parce que ça veut dire que ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous, en fin de compte, qui sommes Dieu. Et les gens du monde ne peuvent pas supporter cette idée. Je termine en posant la question, quand vous expérimentez la haine du monde, comment devez-vous réagir? La première chose, c'est que quand vous expérimentez la haine du monde parce que vous êtes chrétien, et non pas parce que vous êtes embêtant parfois, parce que nous, hein, mais parce que vous êtes chrétien, votre première pensée doit être celle de vous souvenir que le monde a haï Jésus-Christ avant vous et plus que vous. Verset 18. Si le monde vous a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous expérimentez de la haine de la part du monde, ne pensez pas de cette manière, le Seigneur aurait dû m'épargner de ça. Parce que si vous pensez comme ça, vous êtes en train de penser que vous êtes plus grand que Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a dit, le verset 20. Il dit ceci. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors, si vous, vous êtes fâché parce que Dieu permet que le monde vous hait, vous êtes en train de dire, Seigneur, c'est normal que tu viennes et que tu traverses cette vie dans des hôtels d'une étoile et dans des wagons de deuxième classe. Mais moi, il faut que moi, j'aie des hôtels de quatre étoiles et des wagons de première classe. Et il faut que j'ai pas tous ces problèmes que tu as eus. Pourquoi tu me laisses subir ça? Parce que tu n'es pas plus grand que moi. J'ai dû le subir moi-même. Et ça nous amène bien, n'est-ce pas, à notre place. Qu'est-ce que nous attendons du Seigneur parfois? Nous attendons à être traités comme si nous étions plus grands que lui. La dernière chose que nous devons dire, c'est que quand le monde montre de la haine pour vous, vous devez avoir la même attitude de Dieu lorsque le monde le hait. Et c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Le monde, c'est-à-dire les non-croyants qui le détestent. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous aussi, ce cher monde de personnes comme vous et moi, créés à l'image de Dieu. Nous devons les aimer, les aimer, les aimer. Et Jésus termine comme ceci. C'est très étonnant pour moi qu'après avoir parlé de la haine, de la haine, de la haine, ils m'ont haï, ils vous haïssent. Il dit ceci au verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi au monde, et vous aussi, vous me rendrez témoignage. Et notre réaction à la haine du monde, c'est que votre haine ne peut pas m'enlever le désir de vous dire qu'il y a un Dieu qui vous aime et qui vous appelle à venir au salut, à sortir de cette haine, à venir dans son amour. Vous rendrez témoignage à un monde qui vous déteste, parce que l'amour vainc la haine et l'amour vainc la crainte. Que le Seigneur nous aide. Nous allons célébrer la scène ce matin, d'abord en pensant à nous.